fille.
Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'une des grandes voix d'Haïti. Prix féminin en 2014 pour Bain de Lune, Yannick Lahens revient avec un cinquième roman toujours ancré dans sa terre natale. Intitulé « Douce déroute » aux éditions Sabine Wesbieser, ce livre est un portrait tout en nuances de Port-au-Prince. De la violence à la beauté, du désespoir à la poésie, la romancière décline toutes les variations d'un paysage, d'un pays infiniment bouleversant et attachant. Rencontre.
Voici Sylvia,
bonjour Yannick Lahens.
Bonjour.
Pour commencer cet entretien, j'aimerais que l'on s'arrête tout de suite sur le titre de votre nouveau roman, Douce déroute, qui, au-delà de l'allitération à l'image de la poésie qui irrigue tout le texte, deux mots qui sont, de mon point de vue, des termes plutôt antinomique. Et je voulais comprendre avec vous quel sens vous donniez au rapprochement de ces deux termes et si en effet vous aviez voulu susciter un sentiment peut-être de paradoxe pour exprimer les contradictions de votre pays, Haïti.
Vous avez pratiquement tout dit. Oui, parce que c'est une sorte d'oxymore,
exactement.
Ce titre. Et je pense que c'était une manière pour moi d'illustrer, entre autres, ces sentiments, ces émotions extrêmes. Et dans des sens différents et dans leur diversité qui traverse une personne comme moi qui vit à Port-au-Prince. Oui.
Donc, déroute, ça veut dire sortie de route. Mm-hmm. C'est comme ça que vous voyez le pays, il sort de la route.
En même temps qu'il y a la quête de beauté et la très grande créativité qui est l'oxygène qui sauve, qui est la grâce, qui est la rédemption. Donc, nous sommes à la fois dans les ombres et de très belles lumières, voilà.
D'où le terme « douce » aussi.
Déroute, oui, absolument.
Le roman s'ouvre sur une lettre bouleversante, celle d'un homme adressé à sa femme pour lui dire adieu, avant de mourir prochainement, puisque lui, le juge, s'est opposé à une mafia dont il sait qu'elle le tuera de toute façon. C'est à la fois une lettre d'amour, mais aussi une lettre de résistance. Est-ce que ce sont les deux piliers, les deux colonnes vertébrales de ce roman ?
Oui, je peux dire que l'amour, c'est le soleil, c'est le baume qui guérit, qui apaise. Et en même temps, je crois que la quête de beauté, c'est une résistance. Cette lettre, en quelque sorte, elle ouvre en chacun des personnages, justement, cette interrogation, cette dimension. Va-t-on être complètement emporté par la déroute ou va-t-on pouvoir résister dans cette quête de beauté, de justice ? Parce que la justice aussi est une forme de beauté.
Oui, donc le roman raconte comment, après la mort du juge Berthier, son entourage survit ou sous-vit dans un Port-au-Prince gorgé de souffrance. On entend plusieurs voix, sa fille Brune, qui est chanteuse, son beau-frère Pierre, rongé par la culpabilité, mais aussi Nerline, militante, Ézéchiel, artiste, Cyprien, avocat corrompu, Ronnie, qui vient des États-Unis, Francis, journaliste français, et Joubert, tueur à gages. Un panorama, j'ai envie de dire, vertical et horizontal de la société. Il vous fallait, Yannick Lahens, tous ces points de vue pour dessiner un portrait juste de l'île ?
Je ne sais pas s'il est complet, mais si vous l'avez ressenti comme juste, c'est déjà pas mal. Parce que bon, on peut pas, vouloir atteindre cette espèce de chose exhaustive, cette exhaustivité. Mais moi, j'ai voulu faire passer ce ressenti. Et pour moi, il fallait le faire passer en montrant comment tout se tenait. Tout se tient du côté des maléfices comme du côté de la beauté et qu'ils peuvent même se rencontrer. Il y a une juxtaposition de ces choses-là. Et en même temps, il y a cette vie profuse, cette vie trépidante, cette vitesse et cette ville qui ne peut pas laisser indifférent.
Oui, vous dites ici, on vit vite.
Très vite. très vite. Et il y a une énergie dans cette ville qui est absolument à la fois magnifique et même presque terrifiante. Mais c'est elle qui permet justement d'avancer. Moi, je suis toujours frappée, même dans les moments où je suis traversée par la colère ou un peu de désespoir. Et je suis tout de suite happée. À un moment donné, il y a un miracle. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un concert de jazz, un concert de musique classique, une exposition de peinture. Et je me dis, waouh! Surtout que les jeunes ont cette capacité de créer de la beauté. C'est ce qui nous sauve. C'est encore cet oxygène qui nous permet de tenir. Et là, je repars.
Mais vous aviez besoin, Yannick Lahens, de circuler.
Absolument.
Dans la ville, d'un quartier très pauvre à un quartier plus riche, à une boîte de nuit, à des lieux interlopes, aux plages.
Parce qu'il faut montrer cette complexité. La complexité nous fait aller au-delà des stéréotypes, aller au-delà des clichés. Et avoir une connaissance de ce que l'humanité peut produire dans justement cette diversité, cette complexité. Et j'aime beaucoup montrer tous les aspects.
Et d'ailleurs, littérairement, on le voit avec vous, Yannick Lahens, puisqu'il y a un glissement entre les pronoms personnels. Je, il, elle, nous, qui s'invitent dans les monologues intérieurs de chacun pour insister sans doute non pas sur la singularité, mais la communauté.
Tout à fait. On est à la fois dans la fusion et le temps de retrait pour essayer de comprendre, mais les choses vont vite. C'était peut-être aussi cet état dans lequel je me trouvais en écrivant ce livre. Et je me suis dit, je vais faire que la forme elle-même restitue ce ressenti. Donc on est entre la fusion, la distance, on replonge dans la communauté. Et j'ai essayé de faire ressentir ça par le style.
Et en même temps, c'est une vision quand même assez acide que vous proposez partiellement de Port-au-Prince, de la ville. Par exemple, je vous cite page 68. Passé une certaine heure, Port-au-Prince a tout d'une ville récemment pilonnée aux mortiers lourds ou à l'arme chimique noire, embrasée aux portes nord et sud, couvant ailleurs son feu. Ville gueule ouverte, asphyxiée d'avoir avalé à chaque averse toute la rocaille, la boue et les détritus, ville abandonnée à son agonie.
Oui, on a cette impression au bas de la ville, surtout après le tremblement de terre, parce qu'il m'est arrivé d'y aller après 20 heures. Et waouh, c'est vraiment que ça frappe énormément. Et en même temps, je suis allée après 20 heures, enfin dans le cadre d'un événement culturel. Et c'était une nuit blanche, une des premières éditions de Nuit Blanche, et on a eu une soirée formidable dans un lieu au bas de la ville. Donc c'est ce contraste-là qui est absolument frappant et qui me tient et qui peut-être me permet de continuer, qui permet aux autres aussi de continuer à tenir, c'est que on est tout le temps sollicité, on est tout le temps interpellé, on est tout le temps forcément dans l'interrogation, dans la joie extrême, comme dans la colère quelquefois extrême.
Alors cette joie, vous la montrez, mais la colère aussi, vous l'exprimez. Par exemple, une autre citation, « Nous sommes tous pourris, mon cher Pierre, jusqu'aux os. Les politiques, les juges, c'est comme les putes dans un bordel. » Vous n'y allez pas de main morte ?
Non, je n'y vais pas de main morte, parce que je pense que c'est un peu ça. Et vous savez, tant qu'un pays représente un certain chaos, je pense qu'il y a des forces que le chaos arrange. Mais il y a aussi un pays profond, un pays bon, de moins en moins rural maintenant, mais qui avait une capacité de s'autoréguler sans institution, sans présence policière, et qui ne connaissait pas une violence, au contraire, qui ne connaissait pas presque du tout la violence. Maintenant qu'on s'urbanise, il y a quelque chose dans l'humanité qui fait que dans cette urbanisation et dans cette urbanité qui nous amène à une autre culture. Parce que là encore, à chaque fois, je dois préciser, je pense que le peuple haïtien est loin d'être le plus violent. Loin d'être violent. Il est très patient. Vu les violences qu'il subit, parce que je pense que ne pas pouvoir envoyer son enfant à l'école, c'est une violence quotidienne. Ne pas avoir de l'eau, c'est une violence. Ne pas pouvoir se soigner, c'est une violence.
Et de fait, quand vous dites « dans cette ville, il y a ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas », vous, Yannick Lahens, j'ai l'impression que vous vous intéressez finalement aux deux catégories. Et que c'est aussi la réussite de ce roman, entre autres, c'est de ne pas détourner les yeux de la violence, du chaos, de la corruption politique, mais aussi mettre en lumière les artistes, l'espoir, l'amour, l'amitié.
Tout à fait. L'humanité est complexe. J'aime le roman, j'aime l'espace du roman parce que c'est un espace qui me permet justement d'aller à chaque fois un peu plus loin dans la complexité et de proposer cette complexité à mon lecteur, à ma lectrice, pour que cette personne sorte d'un certain confort. De ce que peut-être elle lit dans la presse, dans ce que peut-être elle lit dans tous les clichés, dans tous ces stéréotypes qui ont été construits autour d'Haïti.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de Yannick Lahens avec qui nous parlons de ce nouveau roman « Douce déroute » publié par Sabine Vespieser, éditeur. Donc nous avons vu avec vous le théâtre un peu de ce roman qui est cette île, qui est Haïti, plus précisément Port-au-Prince. Mais j'aimerais avec vous, Yannick Lahens, maintenant parler aussi de la langue. Et à commencer d'ailleurs par une réflexion faite par l'un de vos protagonistes, qui moi m'a intriguée et je voulais vous poser une question. Voilà ce que dit un des personnages. « La langue avec laquelle tu nous parles avec tant d'assurance, Pierre, est une langue fatiguée, friable, mangée de l'intérieur comme par les termites, tu es déjà mort. » De quelle langue s'agit-il exactement? Est-ce que c'est une langue d'une classe sociale, d'un temps révolu? Est-ce que c'est la langue française?
Il y a un peu de tout, parce que aujourd'hui, c'est intéressant, une très bonne question, aujourd'hui je crois qu'il y a, les nouveaux auteurs par exemple, qui aujourd'hui écrivent, sont de classe sociale beaucoup plus modeste que moi, Lionel Trouillot ou Dany Laferrière. Donc quoi qu'on dise, l'école haïtienne a permis que des jeunes de milieux plus modestes soient scolarisés et ils écrivent dans les deux langues, en français et en créole. Ils arrivent de familles souvent créolophones aussi. Donc pour moi, c'est une évolution extrêmement intéressante. Pierre appartient à la génération qui a mon âge à peu près. Donc c'est un peu la provocation d'un jeune qui lui dit « ta langue est déjà friable, c'est déjà la langue de la tradition ». Et en même temps, nous, nous parlons dans les deux langues, beaucoup plus facilement. Mais là où la question des langues devient extrêmement intéressante ici, il faudrait peut-être essayer de réfléchir à une francophonie beaucoup plus ouverte et plurielle. L'anglais aussi gagne du terrain. Et l'anglais gagne du terrain même dans les couches populaires.
En Haïti ?
Oui, parce qu'une faute de français renvoie à un statut social. Donc il y a une sorte d'inhibition à parler le français. Et les jeunes, avec la musique, en fait, la globalisation, et pas seulement en Haïti, utilisent un peu l'anglais aussi. Mais avec plus d'aise, parce qu'il n'y a pas cette inhibition. Il y a la classe sociale. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi une littérature qui se fait en langue anglaise, enfin en Amérique du Nord, avec Edwige Dantica, maintenant il y a Roxane Gay, il y a Katia Ulis, enfin je pourrais citer pas mal de noms. Et très intéressant aussi, des jeunes partis en République dominicaine faire des études s'essayent en poésie en espagnol. Tout au long de la frontière, il y a des élèves qui vont à l'école en République dominicaine, on ne sait pas ce que ça va donner dans une génération. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que ce monde ancien, ce monde nouveau qui se chevauche, qui se rencontre, il y a aussi cette partition de la langue.
Alors cette promiscuité des deux langues, d'ailleurs, elle apparaît aussi dans votre roman, Yannick Lahens, puisque, on l'a dit, la poésie surgit très naturellement à chaque page, parce que quand on connaît la culture haïtienne, on n'est pas surpris de voir ces mots, ces images, j'ai envie de dire ces lignes de fuite presque, en français et en créole. Vous glissez d'une langue à l'autre, mais je me demandais, est-ce que pour vous, l'une et ou l'autre ont des fonctions, voire des usages différents?
Oui, enfin on ne peut pas parler de sorte de bilinguisme pur dans la mesure où dans n'importe quelle situation on passe d'une langue à l'autre, ce n'est pas vrai. Il y a des situations où on écrit, enfin on parle ou en français ou on parle en créole, mais la majorité d'usage d'Haïti c'est la langue créole. Quand on ouvre la radio, il y a, écoutez, 80-90% des émissions se font en créole. Donc on ne peut pas parler de bilinguisme parfait, pas du tout. En revanche, je pense qu'il y a un patrimoine écrit qui est en langue française. Et là, je pense que la nouvelle génération qui vit en Haïti accepte que ce patrimoine soit en français. En même temps, elle est beaucoup plus à l'aise que ma génération à employer la langue créole, parce qu'elle est devenue langue officielle, elle est la constitution est faite dans les deux langues. Donc il y a une avancée assez exceptionnelle. Ce qui est intéressant de voir, par exemple, les jeunes slameurs font à la fois de la poésie en français et à la fois de la poésie en créole, de manière tout à fait naturelle et libre. Donc ça, pour moi, c'est un élément tout à fait nouveau dans le paysage culturel.
Oui, en plus, le créole est quand même très porteur de la culture haïtienne.
Absolument.
Donc, écrire, chanter, slammer en créole, c'est porter toutes les valeurs haïtiennes.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que cette évolution, aujourd'hui, nous avons aussi une académie de la langue créole qui va permettre de manière normative d'avancer. Mais je crois que c'est aussi une richesse très forte.
La poésie et le chant, donc, art dans lequel Brune, la fille du juge assassiné, excelle. Alors, c'est une jeune femme à qui l'on va cacher les conditions violentes, finalement, de la mort de son père, que l'on protège énormément, et qui va tomber amoureuse du français, et donc avoir cette tentation de le suivre, ce qui veut dire partir. Que représente Brune pour vous, Yannick Lahens?
Brune, ou bien d'autres qui partent aussi, peut-être. Il y a toujours eu cette question en Haïti. Rester ou partir? C'est pas une question nouvelle. Depuis le 19e siècle, je sais pas, quelqu'un comme Jean-Claude Fignolet écrit Vœux de voyage et Tentation, enfin, romanesque, où il montre que les personnages partent souvent, que les auteurs aussi ont dû partir à un moment donné. Moi, j'ai écrit un petit texte inspiré justement par ce livre de Jean-Claude, l'écrivain haïtien entre l'ancrage et la fuite. Et aujourd'hui, la question se pose aussi. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Je pense qu'il faudrait interroger peut-être les relations nord-sud. Il faudrait interroger les centres, ce qu'on appelle centres et périphéries. Et ça renvoie à quelque chose de très actuel, c'est le problème de la migration. Voilà. Mais nous, on connaît ça depuis longtemps.
Oui, qui ne concerne pas que Haïti.
Absolument pas.
Ou alors qui concerne Haïti depuis bien longtemps.
C'est pour ça que je dis que Haïti, c'est une sorte de matrice des relations nord-sud. Parce que on comprend tout à partir de là, puisque tout ce que les pays du Sud vont vivre à un moment donné, nous l'avons déjà vécu. Que s'agisse d'un blocus économique, on parle du blocus de Cuba, on en a eu un de 1804 à 1820, on parle de dette, on en a eu aussi une, etc. Donc il y a cette longueur d'avance, on sait.
Oui.
Voilà.
Et puis la notion d'accueil, ça fait longtemps que vous l'avez mise au profit de ce pays, puisque dès 1900, dans les années 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on sait que Haïti a fait un décret-loi pour accueillir les Juifs.
Absolument.
Et leur donner la nationalité
aussi,
immédiatement.
Et toute personne qui était en esclavage en Amérique ou dans la Caraïbe pouvait venir en Haïti.
Premier pays.
Absolument.
De liberté.
Haïti a même aidé la Grèce à obtenir son indépendance en envoyant un régiment de soldats, en envoyant de l'argent et en leur donnant du café pour pouvoir vendre sur les marchés mondiaux. Donc, on s'imagine, Haïti aidant la Grèce pour son indépendance en 1820. Donc, c'est une tradition aussi.
Et cette question de rester ou partir, vous vous l'êtes posée, vous, Yannick Lahens?
Moi, je suis retournée tout de suite après mes études parce que je pouvais le faire. Retourner chez moi. Gary Victor est quelqu'un qui est resté, Lionel Trouillet est resté, il y en a d'autres qui ne pouvaient pas rester, comme Daniela Ferrier qui sont partis. Moi, je ne pose pas de jugement pour ceux qui veulent rester ou partir.
Bien sûr.
Je pense que c'est vraiment des choix individuels. Mais la question continue de se poser, même pour les écrivains de la nouvelle génération. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Bonnel Auguste, Inema Jeudi sont restés, tandis que Mackenzie Orsel, ou bien James Noël, ou bien Néhémy Pierre sont partis. Voilà, chacun suit son cours destin individuel. Je ne pense pas qu'il faut aussi attacher les gens forcément à un territoire. Mais la question se pose tout le temps.
Mais vous pourriez vous sentir haïtienne n'importe où dans le monde?
Certainement.
Ouais.
Oui, oui. Parce que en fait, la première patrie, c'est l'enfance. J'ai passé mon enfance en Haïti, donc elle me suit partout, mon enfance, oui.
Merci beaucoup, Yannick
Lahens. À moi de vous remercier.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Douce Déroute, qui est paru chez Sabine Vespieser, éditeur.